La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique.
Le champion du monde, Max Verstappen, a dit qu'il aurait dû amener son oreiller dans la voiture tellement que cette course-là était plate pour lui. Mais moi, je le sais pourquoi il a dit ça. Je sais à quoi il pensait. Il se disait « À vos marques, prêt, paillé. » Cet été, parcourez le paysage du Canada avec votre paillé. Maintenant, dans la grande famille paillé, plus de fans, plus de modèles et encore plus d'inventaires. Messieurs, on y va.
OK, OK. Paillé, paillé.
Bienvenue dans ce nouvel épisode post-Monaco de l'épingle. Pierre-Alexandre Girard, Jean-Maxime Sanssouci, messieurs.
Salut. Comment allez-vous? Ça a déjà mieux été, mais on a passé tout un week-end de Formule 1.
Ça a déjà mieux été, mon agent.
C'est un petit rub.
Oui, et c'est pour ça que tu es assis à 2 mètres de moi. C'est rien de personnel, tu sais. Et toi, Jean-Max, ça va?
Ça va très bien. Content de vous retrouver, messieurs. Je me suis ennuyé de vous. On a eu un gros week-end très, très excitant jusqu'à peu près au 10e tour du Grand Prix lui-même. Mais c'est Monaco. On s'en attendait un peu.
Mais allez, écoutez, là, les gars, là, avant qu'on rentre là-dedans, là, on tient à remercier des gens.
Oui.
Et on tient à remercier surtout Best Buy, qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chigan. Pour ceux qui font du hockey d'été, mettons, c'est l'endroit parfait. Là, si on pense qu'on va avoir une course excitante à Monaco, là, il va falloir s'enlever les deux doigts dans les yeux ou dans les oreilles ou dans quelque part parce que on sait que c'est pas la course la plus excitante de la saison.
Mais
c'est vrai. Je pense que rendu là, ça fait combien? Ça fait 93 ans que ça dure. depuis, moi, je pense que j'ai vu 3 courses intéressantes à Monaco qui sont excitantes dans la course en soi, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir un week-end émotif. D'ailleurs, on va faire tout. On va y aller presque équipe par équipe parce qu'il s'est passé tellement de choses ce week-end-là. Avant, Pag, tu voulais ajouter quelque chose.
Souvent, dans les Grands Prix comme Monaco, par exemple comme Imola il y a deux semaines, c'est pas nécessairement le dimanche qui va être le plus excitant, mais bien le samedi. Puis le samedi, ça a été haut en couleur. Moi, j'ai vraiment apprécié ma fin de semaine.
On a eu tout un samedi.
Ouais.
On a eu tout un samedi.
Tu sais, ça fait partie du sport de la Formule 1. Effectivement, c'est un événement prime. Là. C'est de la triple couronne. C'est absolument incroyable. Donc, ça véhicule beaucoup d'histoires. Puis avec le résultat qu'on connaît, ben, y a personne qui n'était pas heureux du résultat. C'est impossible.
Ah, t'as raison.
On a eu toute une course en NASCAR en fin de semaine. On a eu une course rocambolesque au Indy 500 qui s'est terminée par une victoire dramatique aussi. Là, on a vu toute l'émotion. Mais ici, on est là pour parler de Formule 1. Puis un scénario de rêve. D'ailleurs... Je l'ai mis dans le retour des sportifs. Dans le club du matin, ce matin, la description d'Alex Jacques du dernier tour de Charles Leclerc. Les gars, il y a tellement de choses à dire. Jules Bianchi, son ami, qui a perdu la vie il y a quelques années à Suzuka, qui avait supplié les gens de la F1 de dire « Non, non, regardez Charles Leclerc. Vous devez avoir ce pilote-là en Formule 1. » Finalement, ça lui a donné un contrat qui avait menti à son père en disant « Oui, j'ai signé un contrat avant son père qui était dans ses dernières heures. » Et tout ça, cette consécration-là à Monaco. Lui-même, après la course, on l'a entendu pleurer. On l'a vu en entrevue post-course également. Il a dit que 2 tours avant la fin, ça pour moi, ça m'a donné un petit... j'avais la gorge nouée. Il dit 2 tours avant la fin quand j'ai commencé à être très, très émotif. J'avais de la misère à voir dans mon casque. Je me disais, non, Charles, pas là. Attends un petit peu encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui méritait plus de gagner le Grand Prix de Monaco que Charles Leclerc?
Non. Quelle histoire de Charles. Il prenait l'autobus sur l'espèce de ligne droite là, quand il était jeune. Puis là, finalement, il entendait les voitures dans sa ville, dans son pays. Parce que Monaco, bon, en tout cas. Puis, il rêvait d'être champion de Formule 1. Il rêvait de faire de la Formule 1, de gagner ce Grand Prix-là. Finalement, il réussit à le faire t'as raison avec son histoire. Il sortait du tunnel. Puis à la télévision, on le voyait à quel point c'était éblouissant quand tu sortais du tunnel. Puis là, Manny, il se dit, mais je vois plus rien, qu'est-ce qui se passe? Il pleurait déjà. Imaginez la gestion d'émotions, de stress tout le long du week-end. Tout le monde parle de lui. Tout le monde dit, Charles, c'est le plus rapide. Charles va gagner chez lui. Imaginez la pression, c'est insoutenable. Là, t'as pas un départ, deux départs.
Ah oui.
Il faut que tu parles bien deux fois. En plus, t'as un genre de 40 minutes pour ramasser les débris. Eh, ça doit être absolument insoutenable. Si on revient à 2018, là, il n'a pas terminé en 2018 à Monaco. 2019 n'a pas terminé. 2021, on s'en souvient, n'a même pas commencé la course. 2022, finit quatrième. 2023, finit sixième. A eu, malgré ses deux pole positions, puis là, il y a sa troisième pole position. Et c'est hier que ça s'est concrétisé. J'ai eu des frissons tout le long. J'ai tout écouté, toutes les émissions avant course, après course, avant tout, après tout. Puis c'était vraiment magnifique. Charles, moi, c'est mon deuxième pilote préféré. Vous vous doutez qui est le premier. Puis j'ai même acheté...
C'est lui qui s'endormait pendant la course.
Ouais. J'ai même acheté un Imper Ferrari parce que j'aimais Leclerc, imaginez.
Wow. Moi, c'est l'an prochain que ça va me coûter cher.
Ouais,
avec Lewis?
Ouais, ouais, ouais.
Fait que bref.
Quand j'étais en Australie, là, je voyais ça, puis je me disais, ah, j'ai le goût de... Non, ça va être l'année prochaine, le fameux 44
exact.
En rouge là, et jaune.
Mais pour ajouter à ce que tu dis, non seulement tout ça à Monaco, mais ça faisait 12 pôles consécutives que Charles obtenait, mais qui n'était pas capable de convertir en victoire.
Oui, effectivement.
Imaginez toute la pression du week-end, dont la pole est la plus importante probablement du calendrier, et puis de réussir à aller jusqu'au bout, puis de remporter enfin ta première victoire, ça, c'était un moment magique.
Et qui aurait pensé que dans le même mois, on aurait brisé deux curses en Formule 1?
Ouais.
Celle de Lando Norris, qui n'avait toujours pas gagné après 110 courses, et celle de Charles Leclerc à Monaco également. Et on se rappelle les fiascos de stratégie chez Ferrari.
Ah, oui.
Ça n'avait aucun bon sens.
Quand il y avait eu de la pluie, un moment donné...
Box, stay out, stay out. Ouais. Là, on met des pneus secs, commence à pleuvoir. Oh. Ou le contraire. Oh. Et, ah.
Mais tu sais, Ferrari ne peuvent pas se tromper dans leur stratégie s'il n'y a pas de stratégie.
On a vu ces mimes-là passer. Là. Tu peux pas manquer un arrêt au puits s'il n'y a pas d'arrêt au puits. Donc, tant mieux pour Charles Leclerc. Le grand gagnant de ce fin de semaine-là, ou celui qui a poussé le plus gros soupir de soulagement, c'est Carlos Sainz, là, qui se ramassait en fond de grille. D'ailleurs,
il était chanceux.
On en parlait avant d'ouvrir les micros, là, mais les fameux règlements de drapeau rouge, là. Et là, tu peux quasiment... Tu peux pas toucher une voiture dans le parc fermé après une sprint, si pis ça. Mais s'il y a un drapeau rouge, par exemple, t'as quasiment le droit de tout faire sur la voiture. Puis en plus, tu reprends ta position.
Petit café.
Un moment. Ouais,
tu reviens.
Tout va bien.
Shot de Baileys.
Ah ouais, mon chum, pas de problème. Reprends ta troisième place.
Ouais.
Tu sais, ça aurait été... Là, tant mieux. Je veux dire, on voit le résultat. Ben, tant mieux. Ça dépend pour qui. Nous autres, on regarde le championnat. On se dit, bon, là, je veux dire, ils ont mis 40 points en fin de semaine, Ferrari contre Red Bull, qui en a mis 8. Donc là, ça resserre énormément le championnat des constructeurs. On en reparlera beaucoup plus tard dans l'émission. Mais, tu sais, en fait, moi, je suis pour un championnat juste aussi. Et une vraie course de Formule 1, si on veut, pour moi, ce règlement-là est un peu désuet. Tu sais, je vais dire ça comme ça.
OK, mais pourquoi? Tu sais, en ce sens que si tout le monde est au courant du règlement, puis que ça pénalise personne, puis que c'est, en fait, c'est pareil pour tout le monde.
Mais ça a pénalisé Lando Norris à ce moment-là. Je veux dire, t'as une crevaison, tu te ramasses en fond de grille, t'aurais peut-être même pas fini la course, tant mieux s'il a fini.
Ouais.
Mais il se serait, tu sais, je veux dire, pour moi, reprend la position dans laquelle.
Au moment où ça s'est arrêté.
Au moment où ça s'est arrêté. Tu sais, c'est. Pour moi, ça serait. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose que je saisis pas.
Peut-être que c'est impossible de dire avec exactitude exactement sont où les voitures s'ils n'ont pas franchi un premier secteur. Ça doit être pour
fait,
ça.
C'est ça. C'est parce que le drapeau rouge est arrivé. En fait, là, c'est que si Sainz arrive au premier compteur de temps, tu sais, comme. Il y a...
Mais c'est pas Sainz. C'est pas Sainz qui a causé le drapeau rouge.
Non, mais justement, mais vu que Sainz n'avait pas croisé. Lorsque le drapeau rouge est arrivé, vu que Sainz n'avait pas croisé le premier calculateur de temps, il reprenait sa troisième. S'il dépassait ça, drapeau rouge, c'est fini, il s'en va en arrière. Et en plus, il a réussi à reculer sa monoplace et retourner au garage. Donc, ils ont pu effectuer les travaux. Hey, ça, c'est quand même chanceux, mais écoute, c'est vrai que les règlements sont pareils pour tout le monde.
Pour utiliser une expression bien de mon cru, des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou.
En plein ça.
Soit-là Carlos Sainz, c'était plus le marteau que le clou.
Il a été chanceux aussi de ne pas avoir de pénalité pour empiètement sur Albon également, parce que toutes les analyses...
Ouais.
Il a...
Mais Albon aussi a fait la même chose. Dans son... Puis en plus, c'était en Q2. Donc, vu, étant donné que les deux sont partis, les deux ils ont franchi Q3, ils ont décidé de ne pas s'éveiller.
Vu que c'était Monaco.
Oui.
Oui, effectivement. Okay.
Parce que si c'est pas Monaco, c'est sûr que c'est deux pénalités.
On va poser la question. Là, ceux qui nous écoutent, on sait que vous êtes des grands, grands fans de F1. D'ailleurs, on vous invite à aller commenter sur YouTube ou sur les médias sociaux d'où vous écoutez ça.
Pour on vous lit.
Interagir avec nous autres, on vous lit puis on veut avoir cette discussion-là. Il faut poser la question suite à la victoire de Charles Leclerc, mais. Est-ce que pour vous, Monaco a toujours sa place dans le calendrier de Formule 1 à chaque année? T'sais, à un moment donné, on pensait avoir une rotation de certains des Grands Prix. Par exemple, entre,
le
Nürburgring, Monaco, Spa, qui font une rotation de cette façon-là. Pour vous, est-ce qu'on doit absolument le garder dans le calendrier chaque année?
Je pense que oui, honnêtement. C'est comme le flagship, là, excusez-moi, c'est comme le... un des drapeaux, des joyaux du circuit. C'est un classique. C'était tout le temps un happening absolument dément. C'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Là. J'ai des images plein la tête du vendredi au dimanche. C'est incroyable. C'est un happening. Puis, même si la course est moins le fun, ben le samedi, c'est le plus excitant des samedis. Donc, ça vient un peu contrebalancer. Même les essais libres sont top, top, top. Et là, je m'amusais là, à cliquer sur les différents pilotes et de voir la caméra de l'intérieur, le onboard cam. Et c'est incroyable. Les gars, ils roulent à 280, 300. Puis tu te dis, mais ils vont se crasher à tout moment.
Ah.
Et non. Mais c'est ça qui est impressionnant.
Fait que, moi, je te confirme, là, tu m'embarques d'une Formule 1. mes pantalons reviennent pas propres.
Non,
un
non.
Tour, c'est garanti. Non,
je me pète la tête dans le volant, puis en arrière, ben puis oui. C'est fini après, là.
Non,
à cause de la force G.
Non, non, mais pas juste ça, mais c'est terminé. On voit souvent, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ça, là, mais les fameux hot laps là, qu'ils font avec des célébrités.
Oui,
là,
oui, oui. Oh,
c'est drôle.
Je peux pas faire
là.
Ça, moi.
C'est drôle. C'est-tu Lewis? Non, c'est Lando qui le fait avec. C'est Michelle Rodriguez de Fast and Furious. Puis c'est la seule qui comme qui garde son calme et qui a pas de problème. Lando lui parle de Fast and the Furious pendant qu'il roule. Puis même à un certain moment donné, elle dit oh, OK, là ça commence à être avec quelque chose.
Ce qui est encore meilleur, c'est que le Carlos Sainz Senior est dans une voiture, puis c'est son fils qui est à côté de lui en tant que passager. Et son fils lui dit il s'accroche, puis il dit attention, pas. Puis lui, il conduit une Formule 1.
Champion
de rallye.
Oui.
En passant
c'est
aussi.
C'est ça. Fait que,
tout un pilote.
Imaginez, là. C'est ça
le tour de Charles Leclerc, là, en qualification samedi. Là.
Mm.
S'entends-tu que, tu sais, on vient rejoindre Senna, Schumi, Kimi, Lewis.
C'était du virtuose, là. C'était...
Et Max, là. C'était je veux fou. Dire, ça rentre là-dedans.
Ben oui.
Moi, j'ai eu des frissons en voyant le tour. J'étais à l'Expo Carte Sport Montréal. Je regardais la qualif. J'ai lâché un cri. Puis là, il y a des gens qui savaient que je regardais ça, qui sont venus voir. Mais très, très près de Piastri. Puis c'est dans la dernière portion, là, dans la deuxième moitié du tour. Là, c'était incroyable. Avec toute la pression qu'il y avait. Pour moi, Charles Leclerc vient de changer un petit peu ma perception de lui. Ou lui-même, peut-être, vient de changer sa perception de lui-même.
Ouais.
Également, en allant... chercher cette victoire-là et cette pole-là à un moment où il était sous pression énormément.
Puis tu sais, c'est fou comment il y a tellement de préparation, comme tu disais tout à l'heure. Les trois séances de pratique vont souvent être concentrées sur la performance et qualification. Il a été révélé que si tu avais pris la première moitié du meilleur tour de Piastri puis la deuxième moitié du meilleur tour de Piastri, son temps aurait été meilleur que celui de Leclerc. Donc, c'est tout de réussir au moment parfait. Donc, c'est pas juste d'être bon ou d'avoir un potentiel, mais c'est également de le réussir au bon moment.
Exact.
Et c'est ça qui est vraiment impressionnant à Monaco, c'est que tout doit devenir bon au meilleur moment.
Et ça, avec des voitures encore plus lourdes, plus larges, les pneus plus larges. dans un circuit tellement tight avec une dévination de dénivellation.
Dévination, hein, vous?
Une dévination de 41 point quelques mètres. Tu descends, tu remontes. Écoute, il faut être vraiment...
Quand on commence à regarder ça, et qu'on regarde le circuit de plus près,
ouais.
Ça devient de plus en plus impressionnant. Je regardais ça avec ma douce. Puis là, elle dit, ouais, mais ça tourne tout le temps. Puis là, les freinages. Puis non, mais ça descend en plus. Là. Ben oui, toi, ça descend.
T'sais, au début, là, quand on voit le circuit en 3D, puis on voit les trois secteurs, les trois secteurs, là, tu vois vraiment ça. C'est
et
fou,
Jensen
là.
Button en parlait beaucoup samedi aussi, à quel point il faut être brave au bon moment à Monaco. Sortir du tunnel complètement, complètement aveuglé là, par le soleil. D'ailleurs, il a failli avoir tout un accident en F2.
Oh, wow.
Et Adjar, qui a utilisé ses réflexes, là, ça m'a donné des frissons. Peut-être même plus que l'accident de Checo, honnêtement.
L'événement Truck en Stock fait son entrée chez Paillé Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Paillé Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en Stock, c'est ben des trucks maintenant. OK, paillé, paillé.
Puis ça rappelle à quel point c'est des athlètes extraordinaires avec un temps de réaction hors du commun, dans un virage à l'aveugle. Qui réussit à éviter cette voiture, c'est absolument prodigieux. Puis surtout, en plus, dans une série F2, c'est pas encore des adultes en soi, c'est pas encore des athlètes pleinement développés. Donc, chapeau à lui pour sa réaction.
Des réflexes de ninja, là. Ouais. De Jedi, là. C'est
encore plus que ça, même.
Incroyable.
Parler de Piastri puis son tour, d'ailleurs, les gars, là, lui, c'est-tu le vrai package, là, Oscar Piastri? Moi, je pensais... D'ailleurs, dans notre pool de fin, je me suis encore trompé, mais je me suis dit, je pense que il va avoir une erreur. Il finira pas deuxième à Monaco, Oscar Piastri. Oui, il était rapide, mais encore là, ça te prend beaucoup de choses pour que tu finisses la course où est-ce que tu l'as commencé aussi. Je pensais qu'il allait avoir un drapeau, plusieurs drapeaux jaunes ou rouges ou quoi que ce soit qui aurait pu aider à ça. Mais finalement, lui aussi, il était impérial dans sa McLaren. Puis de plus en plus, on le sent qu'il prend de la confiance. Il aime ça. D'ailleurs, avez-vous vu la Formule 1? Qui sont revenus sur les commentaires dans les médias sociaux.
Oui.
Quand Oscar Piastri, j'aimerais ça me faire adopter par une famille monégasque. Charles Leclerc, il dit, je vais t'adopter. Et après la FP1 de vendredi, on a vu Oscar Piastri Leclerc. On a fait des blagues avec ça toute la façon.
Puis même, t'as vu la réponse de sa mère à Oscar Piastri qui est comme « Peux-tu essayer de comprendre ce qui se passe là? » Oui, c'est très drôle.
C'était très bien.
Ce qui est encore plus impressionnant d'Oscar, c'est pour moi, c'est à quel point il s'améliore rapidement. T'sais, c'est vraiment une éponge, puis il l'échappe jamais. Au début de la saison, on se disait « OK, il y a du talent, il y a du potentiel, mais c'est pas encore exactement ça. » Puis effectivement, la victoire de Lando... à Miami, ça l'a surligné ça. Par contre, ça fait depuis deux courses qu'il travaille particulièrement en simulation pour gérer la dégradation des pneus. Puis en fin de semaine, on a vu que c'était absolument primordial d'être capable de gérer cet aspect-là. Puis chapeau à lui, puis de tirer cette performance-là en qualification, les gars, c'était vraiment impressionnant.
Il est jeune, ce gars-là, et il est tellement performant. Et là, ça fait deux fois qu'il se qualifie mieux que Norris back-à-back. Et si c'était pas de sa pénalité de trois places, je crois, Miami.
Miami.
C'est ça. Mais est-ce que c'est lui qui gagne? Tu sais, c'est il est vraiment solide, là.
À Imola.
Oh oui, c'est ça. Excuse-moi, là, j'ai trop d'F1 dans la tête. Mais oui, effectivement.
Imola, t'as raison.
Donc, ça fait... Il se qualifie mieux que Norris. Deux fois en ligne dans des circuits difficiles. Qu'est-ce qui se passe? McLaren,
je pense pas que c'est le genre de kid qu'il fallait que tu y répètes souvent quand il était plus jeune.
Ouais.
Il avait pas mal compris du premier coup.
Okay, oh, c'est ça.
Ouais. Fait plus ça.
À quel point McLaren sont bien servis? T'sais? Wow! Ouais,
mais je pensais à ça.
Alpine!
Il serait probablement chez Alpine.
Ouais.
Exact. Si, en fait, toute cette situation-là. Et on se souvient à quel point c'était controversé à ce moment-là. Tout l'argent que Zach Brown a versé à Daniel Ricciardo pour briser son contrat et amener Oscar Piastri, on se disait, mais ils sont fous. On n'a pas vu ça beaucoup dans l'histoire de la Formule 1. sont fous de briser un contrat de cette façon-là. Et finalement, ben, force est d'admettre que Zach Brown est un visionnaire. Là, on critiquait Lando aussi, dire hey, comment ça se fait qu'un jeune pilote. Puis je pense que même dans Drive to Survive, il est fou encore de signer avec McLaren, c'est ça. Mais finalement, écoute, est-ce qu'on a le meilleur duo présentement?
Oui.
Oui.
Ben, Ferrari, oui. Ferrari sont loin. Sont là-dedans aussi, oui.
Ouais. Ouais, Ferrari, mais... c'est solide, mais prenez-vous Leclerc-Sainz ou Norris Piastri actuellement?
Je pense que je prends Norris Piastri.
Moi aussi.
Ça se fait-tu, ça?
Ben oui, ça se fait. C'est que, en fait, moi, ce que j'aime du côté de Ferrari, c'est qu'on a l'expérience, mais on a encore de la fougue dans les pilotes. Leclerc et Sainz, ils ont beaucoup d'expérience combinée. Ouais. Versus Norris commence à en avoir un peu plus. Mais je pense que ça va. Mais dans quelques années, ça va vraiment payer des dividendes. Puis c'est là, encore une fois, on revient là-dessus. Là. Mais Perez, là, s'il vous plaît. Là. S'il vous plaît.
Aïe, aïe, aïe.
On va tout de suite là-dessus. Là.
Non, pas obligé, mais c'est parce que je regarde ton chandail Red Bull, puis ouais. Ça me fait penser à ça.
J'essaie de supporter mon ami Max.
Ben, en fait, le point est bon. T'sais. Moi, je me suis mis comme note les citrons monégasques. Qui sont au nombre de trois, dont les deux principaux sont le suivant. On n'est pas capable de nommer un leader là-dedans, mais tu qualifies 18e wow. Sur une Red Bull.
Ça se
peut. Peux-tu
pas.
M'expliquer?
Il a dit, ouais, il y a eu beaucoup de trafic, pero, blablabla. Un moment donné, là, arrête les excuses, mon homme. Tu le sais que tu es à Monaco.
18e dans une Red Bull.
Il faut que tu fasses un gros tour hier, maintenant. Attends pas de gosser. 18e! Qu'est-ce que tu fais?
Oui, c'était de la faute à Kevin Magnussen, cet accident-là. Je veux dire, ouais. Checo peut pas être tenu responsable. Mais c'est les risques auxquels tu t'exposes en qualifiant fond de gris à Monaco.
Ouais. Je le sais pas, les gars. Je sais pas si vous avez eu l'opportunité de revoir les reprises, mais de chaque onboard, comme tu disais tout à l'heure. Mais Checo regarde dans son miroir où est-ce que Kevin est. Donc, normalement, il l'a vu. Il est quand même... Je le sais que... Kevin est arrivé quand même dans un endroit mort. Il ferme la porte, exact.
Ben, il a le droit de fermer la porte.
Oui, mais après, si c'est pour causer un accident, c'est limite.
Parce qu'il regarde à gauche aussi à un moment donné. Fait que les deux rétros, là, imaginez.
Il ferme la porte à la Red Bull.
Fait que tu sais, imagine, t'es dans ta voiture. Et là, tu roules à 250, 280. Puis là, tu regardes dans ton rétroviseur à droite. Une Haas, ah, tabarouette à gauche, une Haas, dans mes faufounes.
C'est le même?
C'est le même gars, où je m'en vais gauche-droite.
Là, il pointe, ça allait le faire dépasser par deux Haas.
Mais c'est ça, mais tout ça pour dire que, tu sais, ça m'amène à vous...
On va passer à ça.
Exact, ça m'amène à penser aussi, on a-tu été trop sévère envers Esteban Ocon versus que ça n'a même pas été investigué, l'incident de Magnussen et Perez?
On est trop sévère envers Esteban Ocon? Ah,
mais en relation à cet incident-là de Perez, parce que Perez, il l'a vu arriver, Kevin.
Il l'a vu arriver, mais ça se passe tellement vite qu'il se dit, tu sais, il faut qu'il se tasse à gauche ou à droite.
Ben moi, ça revient à la même affaire. Ce que je dis, j'aime beaucoup Checo. Probablement que, tu sais, si je pouvais... me tenir avec ces 20 pilotes-là, probablement que Checo serait celui que, tu sais,
ben, ça a l'air qu'il
t'as envie
drôle.
De tout le temps faire oui, un oui. Hug, être avec lui, devenir ton meilleur ami. Pas capable de prendre la pression comme ça. Aussitôt que ça devient chaud, là, oublie ça, Checo Perez.
Ouais.
Et là, il y a un championnat des constructeurs qui est très serré en ce moment.
Ah, oui.
Et oublions pas, Checo Perez est le vice-champion du monde.
Oui.
Là, il est quoi, quatrième actuellement là, au championnat des pilotes?
Il est cinquième à 107 points.
Cinquième au championnat des pilotes. Et là, t'as McLaren qui font plus de points que toi et Ferrari qui viennent de t'en prendre 25. Là.
Ah ouais.
Et c'est sur une tendance de trois courses. Là. Miami, Imola et maintenant Monaco. Là, au Canada, là. Moi, je pense que c'est une victoire de McLaren, cette histoire-là. Là.
Ouais, Ferrari vont être forts aussi, mais Red Bull sera pas dans le mix exactement en avant.
Ce qu'il dit, je veux dire, ma plus grosse inquiétude, c'est que j'avais envie de pipi depuis le 20e tour. ça saute partout, j'ai mal à la tête. Max n'est pas content. Et il a raison de pas être content.
Mais c'est pas un circuit pour la Red Bull non plus, puis c'était bumpy au bout.
Non, je comprends. Ouais. Mais cela étant dit... Tu ne peux plus te permettre d'avoir un coéquipier qui
absolument.
Ne livre pas la marchandise
absolument.
Et qui qualifie 18e. C'est Yuki Tsunoda a fait la Q3 aussi souvent que Checo. Là.
Ben oui!
Attends une minute, Big!
Il se qualifie Yuki Tsunoda
dans la petite écurie.
Ah oui.
Dans V-Carb.
V-Carb Cash App.
Voulez-vous une autre statistique vraiment le fun?
Toujours.
Albon. Albon. Albon a battu Logan Sargeant, je pense, 29-0 en carrière.
Ouais.
Sargeant a battu 5 fois Sergio Perez.
Oh. C'est inacceptable.
Et là, ça relance.
ça relance. La semaine passée, l'agent de Carlos Sainz. C'était le clou. Mais probablement que cette semaine, c'est lui le marteau. Là. Moi, si je suis son agent, je rappelle Red Bulls. Es-tu sûr que tu veux pas Carlos, là? Avant qu'on signe
mais il lui aurait
chez
offert...
Audi ou Williams, là, es-tu certain que tu veux pas Carlos, là? Parce que moi, l'an prochain, je regarde ça, là, si je suis Christian Horner, ce dont j'ai vraiment pas envie d'être dans la vie, là, mais je regarde ça et je... pour toutes sortes de raisons et je dis, attends une minute, là, t'as un solide duo chez McLaren pour l'an prochain. Lewis Hamilton s'en va chez Ferrari. Mm-hmm. Ça, c'est une autre affaire.
Ça, c'est une autre affaire.
Et là, nous autres, on va se battre avec... Oui, on a Max, qui est Super Max, et Checo Perez.
Non, mais ils le savent. Ils le savent.
Mais non, mais je me demande... Excuse-moi, tu peux pas... Qu'est-ce... Et là, il y a des rumeurs qui disent, là, j'ai lu ça avant qu'on entre en onde, que Checo aurait prolongé pour la saison prochaine.
Non.
On va voir si ça va se...
What?
Ça va se...
J'espère que c'est pas vrai.
Ouais, non, encore, oui, ça vrai. Sort encore une fois. Là. Je vois ça, là, c'est juste
sur Twitter. Twitter.
Il y a plusieurs sources qui disent comme quoi qu'il resterait l'an prochain. Je ne comprends pas ça, ben,
en fait,
mais pas en tout.
Red Bull aurait offert un contrat de 1 an à Checo. Lui a dit non, j'en veux pour au moins 2 ans. C'est ce qu'on a entendu.
Mais voilà, c'est confirmé. On aurait viré Sainz de bord et...
Tu as vu ça où, mon cher?
Écoute, il y a plusieurs sources qui sont très, très crédibles là, qui envoient ça, dont Motorsport Total.
Malgré un crash qui va coûter 2 à 3 millions de dollars pour réparer la voiture.
Écoute, comment je te dirais bien ça? C'est ça. Bref.
On remercie Telcel d'apporter oui. autant de millions ouais. de pesos.
C'est probablement ça.
Colin! Mais je suis vraiment...
Mais
par,
pas
contre,
croire,
par, contre, par contre, par contre, là, il a fini deuxième l'an passé. OK, je pense qu'il faut regarder à la big picture. Là, je fais vraiment l'avocat du diable. Là. Je ne sais pas si vous voyez mes cornes. Par contre, il y a des grands prix qui s'en viennent, qui sont plus
mais c'est toujours
des grands
comme ça
prix
avec
normaux.
Checo. Commence la saison fort. Ouais. On se dit OK, c'est parfait. Et mais... après, il y a une baisse de performance. Hein, s'il ne fait pas bien au Canada. Là.
Canada.
On était prêt à dire que Carlos Sainz, tu sais, on dit ça présentement, on est en train d'enregistrer, puis là, podcast, on réagit live aux informations qu'on a. Mais quand même, 3 semaines, on se disait que Carlos Sainz allait joindre Mercedes. Tu sais, tout le monde disait, c'est fait.
Mais ça change tout le temps. C'est ça qui
ne l'est pas, tu sais. Donc, continuons de spéculer à savoir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir avec Checo Perez. Moi, si je suis Red Bull, je ne signe pas, là.
Moi, j'aurais déjà fait le changement Daniel Ricciardo puis Perez.
Hey, Gasly a été saqué pour non, mais... beaucoup moins
ben
que
oui.
ça.
Albon aussi.
On jase de Ricciardo, Gasly, Albon, Tsunoda. Il est dans le programme Red Bull dans le développement depuis
Albon,
le début.
Albon, oubliez ça, il est signé avec Williams.
Je sais, mais...
Non, je sais, mais il a été saqué par okay, Red Bull.
Ouais. Yuki, Q3 avec une V-Carb. Perez, pourri, 18e. Pourquoi on n'amène pas Tsunoda chez Red Bull pour 1 ou 2 ans? Pourquoi?
C'est probablement à cause de Telcel. Honnêtement, là, c'est probablement à cause de ça.
Mais on doit vendre assez de canettes.
Ils en ont de l'argent aussi, là.
Qui,
beaucoup.
Qui mettent sur Yuki Tsunoda?
Oui.
Pas si certain que ça, moi. Hey, Telcel, c'est énormément d'argent.
Non, non, je comprends là, qu'il y a beaucoup de Mexicains qui parlent au téléphone.
Mais... Checo a rendu des bons services aussi. On veut probablement pas le...
Oui, mais tu veux gagner.
Pas. Moi, je pense que Red Bull, avec les canettes qu'ils vendent, ils n'ont pas besoin de... C'est rentre pas en conversation, à mon avis.
Pour l'an prochain, peut-être, là, mais voyons voir ce qui va arriver avec ça. Mais il faut parler... Kevin Magnussen, là, je veux dire... C'est tout le temps ces trois-là, d'ailleurs.
Mmh. Ouais.
Quelque chose qui se passe avec ces trois-là. Kevin Magnussen, bon, pas grand-chose à dire de plus. Là, je veux dire, classique K-Mag.
Puis, mais en même temps, t'avais vu son départ? Absolument magique, quand même.
Il est bourré de talent, oui. K-Mag, là. Il n'y a pas de problème avec ça.
Avant d'avoir son incident, il avait dépassé 2 voitures, ce qui était comme 50% du Grand Prix au complet en dépassement. Puis ensuite, il y a eu l'incident avec Perez. Il a sûrement été trop gourmand, mais oui, effectivement, c'est le meilleur pour se mettre dans le trouble. Puis je comprends pas encore pourquoi il n'y a pas eu d'investigation. À mon avis, c'était vraiment... ça a mis la vie des deux pilotes en danger. On a vu l'incident.
Violent comme accident.
Et des caméramans, photographes, hey, marchands de l'autre côté du mur. C'était, ouais, c'était quelque chose, là. Honnêtement. Et la voiture, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une voiture complètement détruite comme ça, là. Ça devait être Lando à Miami il y a 2 ans, peut-être, ouais, là, quand il avait fait des tonneaux.
Même Joe Guan Yu, là, quand il est passé par-dessus, ouais, là, c'était George moins pire que ça. Ouais. Gros Jean, c'était en feu, mais c'était bien moins pire que ça. Ben, là, c'était vraiment une, ouais, canette écrasée de Red Bull. Vous avez sûrement vu ben, le
mais ça montre à quel point les voitures sont des merveilles d'ingénierie présentement. Le cockpit est intact, là.
Puis à la fin, il prenait sa petite entrevue, puis j'étais comme, man, il a pas l'air d'avoir mal nulle part, mais c'est tellement violent comme impact. C'est incroyable.
Ouais, il va le sentir aujourd'hui. Pas mal ça, on va le sentir aujourd'hui.
Ben, si on doute que c'est des athlètes de pointe, ces hommes-là, par contre, là, on a une autre preuve. Là, le nombre de forgés qu'il y a eu à subir juste dans cet incident-là, ils sont prêts à subir d'énormes forces.
Ah non, c'est sûr. Esteban Ocon.
Oh, quel épais, je vais le dire.
C'est j'allais dire Ocon. C'est.
Oh, quel con! Ça se dit, ça?
J'en revenais pas quand j'ai vu ça. Et j'ai vu l'incident au départ. T'sais, j'ai regardé la course. J'ai re-regardé plus tard, mais lorsque je l'ai regardé au début, j'ai vu la reprise. Puis j'étais, encore une fois, j'étais dans un salon de collectionneur. Donc des fois, j'avais mon attention qui était. Et là, je vois ça. Et tout de suite, j'ai eu le réflexe. C'est sûr que c'est pas Gasly. C'est sûr que Gasly n'a pas fait ça. Et comme de fait, c'est Esteban Ocon. Mais vous rappelez-vous d'avoir entendu un directeur d'écurie dire « Là, c'est assez.
Non.
Il va avoir des conséquences. »
La dernière fois que c'est arrivé, c'était chez Alpine. Quand ils ont laissé partir Safnauer. Alors, mais j'en reviens là, à ça. Je m'explique mal la sévérité de 5 places de punition. Il y avait littéralement un gap. C'est juste parce que si on avait été dans une course qui n'avait pas de clôture...
Ouais, ça doit être passé au camp, honnêtement.
Peut-être.
Et il avait perdu son volant en Formule 1 au départ à cause d'un comportement comme tel en piste. Et là, ça revient.
Ouais.
Et là, la rivalité avec Pierre Gasly n'aide pas. Il performait mieux depuis le début de la saison que Pierre Gasly. C'est pas la première fois que tu en as deux qui s'accrochent. Mmh.
Puis les rumeurs l'envoient chez Haas. Donc, on va prendre quelqu'un à problème de Magnussen, puis on va remplacer par un autre comportement à problème.
Je comprends que c'est plus Gunther qui est chez Haas, là. Mais tu congédies Mick Schumacher parce qu'il coûte trop cher d'accident et tu t'en vas chercher Esteban Ocon. Esteban Ocon, là, pour moi, dans les 20 pilotes qui sont en Formule 1 présentement, c'est celui qui mérite le moins d'avoir un volant.
Ouais, Logan Sargent, oui, là-dedans, là, son
nom. Non.
Logan, alors.
Ça fait combien de temps?
C'est pas pire que Logan. Ocon a quand même eu des bons résultats, entre guillemets, avec une voiture.
Si je te dis, t'as une écurie demain, là. Les gars, là.
Tu prends pas Sargent avant.
Non, je vous aime beaucoup, là. Là, vous allez penser plus loin que le bout de votre nez 2 secondes, là.
Tu prends pas Sargent avant.
Puis mon nez est enflé aujourd'hui, les gars.
Tu me niaises-tu?
Il est pourri, Sargent!
Il est pourri, mais il est jeune. Il est américain.
Ah, mais t'as beau être jeune, américain, puis cute. Il s'en va après cette année. C'est fini, là.
C'est pas ça, la question. Aimes-tu mieux avoir ça ou un pilote controversé qui joue à boule le bowling, puis que ça fait combien de temps qu'il est en Formule 1, Esteban Ocon?
Écoute, je comprends ton point, mais Ocon rapporte.
Moi, tu me dis demain matin,
résultats.
Lequel des deux tu signes? C'est... Ben, il rapporte. Il coûte ce qu'il rapporte.
Ouais,
ça sert à quoi? Tant qu'à ça, donne-moi un jeune pilote américain qui peut aller chercher un marché de commandite bien plus intéressant.
Ouais, oh, non, je suis pas d'accord. Il est pourri, Sargent. Il est pourri.
Je suis quand même d'accord avec toi.
Il est pourri.
Puis c'est sûr que vous me niaisez.
Ben non.
En IndyCar, il y a une poignée de pilotes américains qui feraient mieux que Sargent, je suis persuadé.
Ben, fait que l'argument des... quand il est arrivé en Formule 1 et c'est expliquant cela.
Bearman et Antonelli qui s'en viennent. Là. C'est c'est fini.
Esteban Ocon est celui qui mérite le moins son volant en Formule 1.
Ben, peut-être à cause de son
ça se
comportement.
Pas,
plus que Kevin Magnussen.
K-Mag, là, il y a un petit stretch assez rough, là.
Ben, Kevin Magnussen... As-tu vu Kevin Magnussen, comment il a défendu Nico Hülkenberg? Oui, il est allé chercher
Oui, oui, oui. Bon, en termes de pénalité, je veux dire, mettons, il move dangereux.
Je prends Magnussen avant Ocon, encore une fois, parce qu'il va jouer la tactique des pieds. Tous les coéquipiers d'Esteban Ocon ont détesté être équipiers avec lui.
Toutes.
Ben, je veux dire, l'équipe avant tout, puis encore une fois... En fin de semaine, Alex Albon, c'est un certain moment. C'est en fin de semaine où c'est à Imola, Alex Albon qui donnait les conseils pour Logan Sargent, tout le reste. moi, je vous dis, on va toujours donner une chance à un plus jeune pilote. Et pour une saison, là, je prends Logan Sargeant avant. Surtout si j'ai un pilote.
Ça dépend,
t'es
rendu où dans ton développement. Là. Mettons que t'as besoin d'une petite rentrée de cash. Le char, il est pourri. Anyway, l'an prochain, on finira pas 5-6e. Tu sais, circonstanciel, peut-être que je prends Sargent pour les pesos. Mais si j'ai un char moindrement compétitif puis je veux des points,
ben c'est parce que t'as besoin des
pesos
aussi pour les développer. Là, je veux dire.
Les pesos, les pesos.
Mais dans son cas, c'est.
T'as besoin d'argent pour ton développement aussi. Ah, là, je veux dire. Nicolas Latifi, je suis désolé, mais il servait à quoi chez Williams? Là? Il amenait la Vazza avec lui. Là.
La Vazza.
La Vazza.
Il a donné le premier championnat du monde à Max Verstappen. C'est à ça qu'il est servi.
Ah, ouais. Mais anyway, tout ça pour dire, Ocon, c'était un move
mal.
Imbécile.
Ça fait attends, ça fait mal encore à Abu Dhabi 2021.
Donnez-vous un break puis arrêtez de penser à ça. Là.
Ben, c'est...
Donne-toi un break mentalement.
C'est je suis capable. Honnêtement, Esteban Ocon.
Si j'étais dans ton. À quoi? Esteban Ocon, move d'imbécile, premier règlement, ne rentre pas dans ton ami, dans ton collègue, dans ton
coéquipier. Voilà le terme que tu cherchais.
Il fait ça. C'était un mot. Il y avait de la place.
Un directeur
d'écurie. Il n'y avait pas de place.
Helmut Marco n'a jamais dit ça. Là, il va avoir des conséquences cette année. Là, tu vas me dire qu'il va avoir des conséquences chez Alpine.
Il n'y en aura pas bien. Ben, ça va être quoi? Fais 50 push-up.
Non, non, mais les conséquences, ça va être. T'as plus de contrat, mon chum.
Ouais, ben, il y a certains médias qui ont amené une suspension de 2 courses, probablement, pour amener un jeune pilote de la filière Renault.
Jack Doohan?
Oui, exactement.
Ça pourrait être drôle, ça.
Ça, ça a été discuté, mais ben ensuite, je pense que le chef d'équipe, il s'est calmé et est revenu sur ce qu'il a dit.
Bruno Famin, je trouve pas qu'il fait peur à grand monde non plus. Là.
Omar, c'est souvent ceux-là qui font le plus peur, honnêtement. Là, que...
Tu penses?
Ben, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas l'air d'asseoir son autorité, qui est très, très chill, et ces gens-là, lorsqu'ils sont fâchés, à ta minute.
Je continue à croire que c'est Omar
Safnauer
qui aurait dû rester. Là.
Ouais.
Anyway.
Écoute, Alpine, et rappelons-le, là, Alpine se battait avec McLaren il n'y a pas si longtemps que ça.
Mm-hmm.
Renault, Alpine, ça va vraiment pas bien. Je pense qu'on fait le bon choix en gardant mon ami Pierre Gasly.
Je l'aime pas, moi, Pierre. Je sais pas pourquoi.
Il y a des coéquipiers, et ça, on l'a vu dans le sport, qui réagissent mal avec une compétition interne. T'sais, là, je vais vous donner un exemple complètement farfelu. Price à Lac. Ça aurait jamais pu continuer. Carey Price n'aimait pas avoir ça, mais une fois que tu lui donnes... C'est un meilleur gardien de but qu'à Lac aussi, là. Mais je veux dire, faites juste vous rappeler, rapporter en 2010-2011, lorsqu'il y avait ces espèces de compétitions à l'interne... C'est la même chose, selon moi, avec Pierre Gasly. Pas confortable là-dedans du tout.
C'est un gamer, Pierre, quand même. Là. Il c'est un bon
calife en fin de semaine. Aïe, aïe.
Ouais. C'est prodigieux. La chose qui est bien avec Pierre, c'est qu'il est aussi... On parlait de justement des sergeants et tout ça. Il est aussi bien marketable, qui est bon en piste.
Ouais.
En Formule 1, il y a beaucoup de ça aussi. T'as envie de commanditer des pilotes que t'aimes. T'as envie de... on le voit même, Colin, sur un Patreon, tu as envie d'encourager quelqu'un que t'aimes, donc tu vas lui donner tes sous. Mettons ça à l'échelle Formule 1, tu as envie de commanditer quelqu'un que t'aimes également.
Et dans les entrevues d'après-course, Ocon a coupé très court hein, aux questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là.
Il n'avait pas vu l'incident. Pis...
Lawrence Barreto a dit, puis comment tu penses ça? Ah, j'ai pas vu l'incident, puis that's it. Hey, t'as pas vu l'incident?
Tu l'as fait.
Menteur. Impossible.
J'étais là.
Impossible. Puis deux, Gasly a dit que c'était pas nécessaire. Les règles étaient claires avant la course. Gasly était pas satisfait.
Mais les règles internes d'écurie, c'est pas. Ça devrait pas être pénalisable. T'sais, dans le sens. Je sais que c'est pas là-dessus qu'ils se sont basés. Oui, le sendé de trop loin. Mais il y avait l'espace pour le faire. Puis c'est, comme ouais, je le dis, c'est juste...
Là que,
c'est
encore juste... une fois, ta voiture...
C'est Monaco.
Ouais, mais sur les 23 autres courses du calendrier, il n'aurait pas été pénalisé parce que Gasly serait sorti de piste, mais là, il y avait une barrière. Donc,
moi,
il aurait été pénalisé.
Je vais te poser la question. Si tu es le seul des 20 pilotes à essayer quelque chose, c'est peut-être parce que c'est pas une bonne idée. Là. Je dis ça de même. Ouais.
Surtout
ça,
que tu roules 10 et 11 à ce moment-là.
Si c'est une clôture, tu peux pas dire normalement... Il n'y aurait pas eu de clôture, c'est correct. Ben non, justement, il y en a une clôture.
Non, non, je n'essaie pas de le défendre, mais je fais juste. Je m'explique pas encore comment est-ce qu'on a donné une pénalité de 5 places et qu'on n'a même pas voulu investiguer l'incident Perez-Magnussen.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
Tu as raison.
Mais déjà là, ça veut dire qu'au Canada, je veux dire, il va partir 20e, là.
Ouais. Peut-être qu'ils se sont dit, écoute, c'est un incident de course, entre gros guillemets, les gens sur YouTube, que Perez, écoute, regarde à droite, regarde à gauche, nulle part où aller, K-Mag, son nez était un, tu sais, dans le...
Non, mais Kevin Magnussen aurait dû avoir une pénalité.
Je pense aussi, mais j'essaie d'expliquer pourquoi. Là, où ils se sont dit, si on donne une pénalité, il va être suspendu, on est clément. Je sais pas.
Mais c'est pour ça que tu mets des règlements en place. C'est qu'il faut pas que tu te mettes dans le trouble trop souvent. Alors, il aurait dû le pénaliser, à mon avis.
Continue en chicane interne dans les équipes. Aston Martin, là,
oui.
Tu viens de prendre un grand respire. Là. Peut-être ça que Lawrence Stroll doit faire aujourd'hui. Et là, on n'a pas parlé de Lance encore, là. C'est 4-4 là, en qualification avec le beau mononcle Fernand là, que tout le monde élevait. Là, on... D'ailleurs, après l'épisode de la semaine passée, Pag m'appelle. Hey, dans les pilotes qui peuvent être champions du monde, Greg, on a oublié de mettre Fernando Alonso. On n'a pas oublié, Big. Là. Oublie ça, là, qu'il devienne champion du monde. Et là, après quelques courses seulement, il vient juste de signer un contrat à long terme. Là, déjà là, on se disait, ski boude, tanné, il veut plus être là. Tu viens de signer un contrat à long terme. Là. Ça fait pas 6 mois, là. Ça fait 3 courses, peut-être.
Ouais.
Tu sais? Donc, c'est inacceptable d'avoir ce type de comportement-là. Week-end difficile pour Aston Martin, encore une fois, qui sont... Écoute, se font dépasser par V-Carb. Deviennent une des écuries les moins performantes du plateau actuellement. Mais et Lance qui va chercher... On parle encore une fois... Des fois, c'est à long terme là, que ça commence à payer des dividendes. Lance qui est important pour le développement de la voiture le plus possible et qui bat Alonso. Là. C'est 4-4 après 8 courses. Là.
Moi aussi, je voudrais si l'an passé, à pareille date, je partais 2e sur la grille de Monaco, puis aujourd'hui, je suis la 6e voiture sur le... La 6e voiture dans le championnat des constructeurs. Tu sais. La 6e en force, je veux dire. Derrière les V-Carb.
Ouais, les V-Carb, ils ont dépassé Aston Martin.
C'est pour ça que je dis que... probablement qu'on met les moyens et que Alonso le voit, c'est ça qui l'aurait justifié pourquoi il a signé.
Tu dis grâce à Tsunoda,
mais non,
mais
c'est
sûr.
Ça. Je viens de voir 5 points Daniel Ricciardo.
Ouais, mais je suis pas sûr que tu sais Daniel qu'on va reconduire chez V-Carb d'ailleurs pour l'an prochain aussi là. Pas sûr qu'il est pas très important dans cette écurie là moi. Pour le développement de cette voiture là, Daniel Ricciardo a gagné 8 courses dans sa vie. C'est un pilote excessivement talentueux et tout le reste.
C'est sûr.
Je suis pas mal certain qu'il lui doit aider Yuki à exprimer son talent présentement. Ouais.
Parlant de 8 courses, là, ça m'a juste fait allumer que c'était juste la 6e victoire de Charles Leclerc. J'ai la misère à m'expliquer ça. À quel point c'est du talent gaspillé.
Tu sais, Jacques Villeneuve a gagné 12 courses dans sa vie. Là.
Ouais.
Nous autres, on a l'impression, c'est hey,
champion du monde. T'sais.
12 courses et il y en a plusieurs comme ça. Le plus de pole position dans une Ferrari. Allez voir ça, là. Et c'est Michael Schumacher qui mène allègrement, c'est sûr et certain. Charles Leclerc, je crois, qui est maintenant 2e. Vettel et Kimi sont même pas là.
Ah non?
Dans le top 5.
Wow.
C'est fou pareil, là. Tu sais, Kimi qui a gagné un championnat avec eux. Ouais. Donc, des fois, de voir les statistiques. C'est, ben, Ferrari qui a une longue historique aussi, là. Donc, c'est un peu comme avec le Canadien de Montréal. T'as des joueurs qui sont là depuis 1909. Là.
L'événement Troc en Stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en Stock, c'est bien les trocs maintenant. OK, OK, Payé, Payé.
Charles, vraiment, c'est la rédemption totale. S'il perdait, c'était le zéro. Il vient de gagner, c'est un héros parce qu'il a eu beaucoup de malchance avec Ferrari, mais il a aussi fait quelques erreurs lui-même dans les dernières années. Donc là, on dirait qu'il y a 2 pianos, un éléphant puis un rhinocéros qui sont plus sur ses épaules.
J'ai hâte de voir, je l'ai dit
il
tantôt.
Il est ultra confiant maintenant. On disait, excusez-moi, je vais juste terminer. On disait, oh, non. Sainz va super bien. Est-ce qu'on s'est trompé? On aurait dû garder Sainz. On le libère, finalement, là, hop, Charles est très bon depuis
mais ça, c'est les
saison.
Médias qui disaient ça.
Mais oui, mais c'est ça, la formule.
Fred
aussi,
Vasseur n'a jamais changé son discours, là. Non, non, l'an prochain, et d'ailleurs, avez-vous vu la poignée de main de Lewis avec Charles, qui était super...
Pas.
Non, t'as pas vu ça. En pleine entrevue, Lewis est allé taper une fesse à Charles. c'était super amical ensemble.
Il y a un beau bromance qui va commencer là.
Oh, oui, j'ai hâte de voir ce duo là ensemble. C'est pas parce que ouvertement je suis un grand fan de Lewis, mais je pense vous autres aussi les gars, vous n'êtes pas des fans de Ferrari, vous n'êtes pas des fans de Charles Lewis nécessairement. Ben, tu commences à avoir un petit man crush sur Charles Leclerc.
Ben, je l'ai toujours eu. Puis ma blonde, elle trouve vraiment, vraiment beau. Sous certains angles très précis, avec beaucoup d'ombrage, je peux lui ressembler un petit peu.
Moi, ma blonde, c'est Lewis.
Beaucoup d'ombrage.
Et Carlos Sainz.
Carlos?
Oui. Je pense que c'est celui qui me ressemble le plus. Alors, j'en suis fort heureux. Mais le smooth. Les deux préférés. Et Lando, elle aime beaucoup Lando également.
Moi, ma blonde, elle s'en sac.
La Formule. Il n'y en a pas un qui a trouvé plus que.
Elle écoutait les qualifications avec moi samedi.
Ça me puis... Sebastian Ocon. À Esteban Ocon.
Non, on fait pas.
C'est pas vrai, c'est une joke, c'est une joke.
Qu'est-ce qu'il nous a fait, Pat?
C'est pas vrai. Mais Esteban Ocon, il est quand même joli aussi, là. T'sais.
Puis elle voit Lando Norris passer, elle dit ben, let lui. C'est tout ce qu'elle a dit.
Lando.
On dirait D'Artagnan, Lando, sur sa photo, hein.
Il est tellement drôle.
Il est comme.
C'est la personnalité de Lando, il est tellement comique. Encore une fois en fin de semaine. Messieurs, je veux juste qu'on passe rapidement. Là, il nous reste peut-être une quinzaine de minutes. Lewis et Mercedes.
Ah oui.
Moi, j'ai jamais entendu les commentaires de Lewis Hamilton qui a dit oui, je me suis fait battre en qualification par George. Mais de toute façon, je pense pas battre George d'ici la fin de la saison en qualification.
Ouf.
J'ai jamais entendu des commentaires comme ça, moi, venant de Lewis Hamilton ou venant d'un champion du monde en soi. Donc, ça, c'était... Pour ceux qui pensent, ouais, Lewis a abandonné. Non, non, ça, c'était une flèche à Mercedes directement. Mercedes, en tant qu'équipe, d'ailleurs, ont été pourris en fin de semaine.
Mais on peut pas leur en vouloir de donner les traitements préférentiels à George Russell maintenant avec une nouvelle pièce. Même si Lewis t'a amené 6 championnats du monde dans ton écurie, tu dois réfléchir à l'avenir. T'sais. Puis Lewis a raison de dire ça quand même, c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il a démontré que c'est un excellent pilote sur les rues de Monaco. Mais, ouais, exact. Ben, tu sais, George va avoir la balance, c'est sûr. Il va avoir le traitement préférentiel. Donc, c'est à lui de le perdre, là, George, en ce moment.
Puis probablement que Lewis est déjà pas inclus dans certains meetings, probablement. Un peu comme Newey, tu sais, qui s'en va. Tu peux pas avoir Newey tout le temps.
Mais la semaine passée, Lewis qui disait qu'il était toujours très commis à développer la voiture d'ici la fin de la saison.
Je comprends, mais à un moment donné, tu peux pas comme dévoiler les stratégies pour 25-26. Fait que c'est sûr que...
Je trouve ça plate comme fin.
Il doit être mis... Ouais, mais t'as raison.
Et même d'entendre, tu sais, de voir qu'il y a eu une petite friction entre Bono et Lewis en fin de semaine. Lorsqu'il est sorti de son tour pour expliquer, là, lorsqu'il est sorti des puits... il a dit, est-ce que c'est un push lap ou un normal lap? Donc, est-ce que je dois aller chercher le maximum de la voiture pour tenter de gagner la position en piste sur Max Verstappen? Et Bono, qui a simplement il a dormi au gaz, il a dit normal lap, il n'y a pas de problème. Tandis que si Lewis poussait un petit peu, allait chercher la position sur Max, et Max aurait fini 7e, Lewis 6.
Et, le top 4 sont partis en gomme médium. Et les 5, 6, 7, dont Lewis partait en gomme dure. Et ensuite, ils ont été contraints à être sur les gommes médiums pour combien de tours? C'était 75 tours?
George Russell a fait 77 tours sur ses médiums en fin de semaine.
T'sais, c'est absolument incroyable comme performance. Mais Lewis, sur la radio, dit « I told you guys ». Parce que dans le sens que c'était prévisible qu'il allait avoir un incident lors du premier tour. Puis à partir de ce moment-là, il était... condamné, puis on a vu les gens qui sont arrêtés faire un repos gratuit. Mm-hmm. Ils n'ont jamais réussi à dépasser la voiture malgré des pneus beaucoup plus jeunes, tu sais.
Mais c'est ça qui est dommage, mais on le sait, on ne peut pas s'attendre à 15 dépassements à Monaco, mais on a vu Norris chauffer Sainz, Piastri chauffer Charles, Verstappen chauffer Russell avec ses
mais
nouveaux pneus.
Les gars abandonnaient, tu sais.
Mais il n'y en a pas de
ça
place.
Ça variait, 1,5 secondes. Et là, le tour suivant, il y avait 0,5, 0,6. On se dit, oh, ça... Et là, après ça, 2 secondes, 0,2. Donc,
puis Russell qui s'est éloigné. Puis là, il disait, vous voulez vraiment que je ralentisse un peu? Il dit, oui, on n'a aucun avantage avec tes médiums, big. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Fait que ça ne sert à rien de chauffer Norris, ça sert à rien. Et ils ont eu raison là-dessus. Là.
Exactement.
Mais Russell a fait une course incroyable. Il faut pas négliger ça. Là. Il a géré des pneus.
Avant de parler du futur de Carlos Sainz, on parlait d'Esteban Ocon et probablement que lui voudra se diriger sur Carter Ruse. qui présente notre podcast L'Épingle. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca et vous n'y trouverez pas Esteban Ocon ou une Alpine. On pense.
J'aimerais souligner tes deux liens magistraux avec Cargurus et...
je m'améliore. Ça fait partie de la job.
Très fort.
Alors, je m'améliore. J'essaie d'être aussi bon que PAG dans le processus.
Je l'ai entendu d'ailleurs en fin de semaine.
Est absolument formidable. J'ai deux sujets pour vous avant qu'on se laisse aller. Carlos Sainz. Là, Williams serait dans la course et Williams serait une des écuries les plus en vogue présentement à cause du développement du moteur Mercedes en 2026. Et on voit ce qu'Alex Albon est capable de faire. Est-ce qu'on va chercher Bottas ou on va chercher Sainz chez Williams, selon vous?
Si tu peux, tu vas chercher Sainz, c'est sûr et certain. Je pense. Il est plus jeune. Il est en feu. C'est comme un mini-ingénieur aussi. Là, on l'a entendu en fin de semaine à la radio. A jasé avec ses ingénieurs. Ouais, mais là, les pneus, si dégradation, je devrais-tu. Il est en total contrôle. Il a fait une excellente course. Puis si tu penses à l'avenir chez Williams, on l'aime Bottas, mais tu t'en vas chercher le pilote qui est plus dans son prime et c'est Carlos Sainz.
Ben oui, tu sais. Puis en plus, Valtteri, chez Mercedes, il a jamais été à la hauteur. Tu sais, dans le sens qu'il y avait la voiture pour gagner un championnat du monde, puis il était toujours très loin de Lewis, ou en tout cas beaucoup plus loin. Carlos, il a quand même démontré qu'il était capable de surperformer son coéquipier. Je pense que Carlos, c'est un choix beaucoup plus sexy. C'était une écurie à choisir pour l'avenir, effectivement, puis en plus à cause de l'âge. Et aussi de sortir de chez Ferrari, là, tu vas en avoir appris comment gérer la pression. Là.
Valtteri a été un bon coéquipier.
Excellent coéquipier, mais oui, pour développer une voiture.
10 courses, était excellent en qualification aussi, on le rappelle. Donc de dire, moi je vois toujours là, ce débat-là, Bottas-Perez. Valtteri Bottas dans une Red Bull en ce moment ne qualifie pas 18e à Monaco.
Non.
C'est sûr et certain. Mais moi je crois que Carlos Sainz s'en va quand même chez Audi. Je peux pas croire que tu pars de chez Ferrari, tu t'en vas chez Williams. Là, on va participer à ce projet-là de développement. Je miserais beaucoup plus chez Audi, surtout avec l'historique, avec son père et tout ça. Mm-hmm. Je pense qu'il s'en va directement.
Il va finir là, peut-être, probablement. C'était la rumeur depuis le début. On l'envoyait chez Mercedes, chez Red Bull, chez Williams, partout. Puis finalement, il va peut-être finir chez Audi. Mais ils seront sûrement pas compétitifs avant un bon bout de temps.
Non, c'est Sauber. L'an prochain, il va être en vert fluo. Chez Steak Sauber.
Mercedes semble en avance dans le développement du. J'ai encore relu ça en fin de semaine pour le développement du moteur des nouveaux règlements en 2026. Donc ça veut dire
encore une fois, là, je pense que je ramène ça à tous les semaines.
Ah non.
Le championnat est plus serré que jamais.
Ouais.
Va l'être en 2025 aussi. Bon, on change les règlements encore.
Oui, mais c'est correct.
À chaque fois qu'on va avoir un championnat serré, on va changer les règles.
C'est la fin du cycle. On est dedans hein, plus que jamais.
On va avoir des cycles tout le temps aux 5 minutes.
Mais Greg, là, cette fois-ci, je trouve ça pertinent parce qu'on va introduire le carburant sustainable, donc qui est recyclé à 100%. Donc ça, c'est un avancement pour l'industrie de l'automobile. Puis ça, on ne peut pas cracher là-dessus. Ça fait partie des avancements. Tu sais, le ERS, le Energy Récupération System, comment tu appelles ça? Les ERS qu'on retrouve dans les Tesla, que c'est si important pour recharger ta batterie ou dans une voiture hybride, ben ça a commencé en Formule 1. Et puis là, en développant un carburant qui est, aidez-moi les gars, sustainable, recyclé à 100%, durable, ben on va enfin, améliorer l'automobile, l'industrie de l'automobile pour la planète. Alors là, où les camions vont pouvoir utiliser ça sur des longues routes. Bref, on va...
Ça a l'air même qu'on pense d'utiliser ce carburant-là, mais de ramener des V8 ou des V10.
Exact.
Comme pour le son. Si on est capable d'avoir ce fameux zéro impact ou presque zéro, qu'on serait capable d'aller chercher... Donc, zéro impact. Je veux dire, au nombre d'avions qui se déplacent un peu partout à travers la planète, on repassera là-dessus.
Mais un jour, les avions vont sûrement utiliser ce carburant-là si on ne réussit pas à faire des avions électriques. Ça prend ces passages obligés-là, à mon avis. c'est normal. La Formule 1, ça a toujours été une voiture de pointe. Donc, c'est normal d'avoir des cycles. Même si, là, on aimerait ça pouvoir profiter du classement enfin plus serré.
Mais c'est intéressant aussi, là. Dans le sens où il reste un an et demi à peu près à ces règlements-là. Ça n'a jamais été aussi serré que quelques années. Ça va être qui? McLaren? Red Bull, est-ce qu'ils vont revenir? Ferrari? À chaque week-end,
on va avoir un an et demi de bonbons, là. Puis après ça, on ne sait pas ce qui va arriver en 2026.
Ben, qui sait si c'est pas justement Williams ou Audi ou Mercedes qui revient avec la bonne formule magique. C'est quand même excitant.
Deux sujets rapides, mais pensez-vous qu'en 2026, on va avoir GM qui sera là avec Andretti?
On dirait
Andretti,
pas, hein?
Qui eux autres n'ont pas pris non comme réponse. Hein? Continue de revenir, on dit le Sénat américain, ils vont se pencher là-dessus en disant que c'est illégal de refuser parce qu'on rencontre tous les points. Pendant ce temps-là, la Formule 1 qui disent que le prix pourrait passer à, c'est combien? C'est 6 ou 700 millions maintenant? Ou c'est des milliards de dollars? Bref, il y a un 6 ou un 7 là-dedans. Avant, c'était 5. Là, OK, ben, vous voulez vraiment être là, on va peut-être monter le prix. Et on a engagé un ancien dirigeant, un C-level de la Formule 1 pour aller dans l'écurie. Donc, on a tous les éléments maintenant. Il y en a qui ne veulent pas avoir une 11e écurie. Mais moi, je pense que ça va finir par arriver, les gars.
Et j'oublie son nom, là. Je ne sais pas c'est qui, là. Un homme qui a dit, écoute, je vais tout faire pour que tu ne rentres pas en F1. Avez-vous vu ça?
Non.
C'est pas le président de la...
Ben Sulayem?
Non, c'est pas Ben Sulayem.
Le nom m'échappe.
Non, excuse-moi, c'est le propriétaire de Liberty Media.
Oui, exactement, c'est en plein ça.
Exactement.
Il dit « je vais tout faire ». Ça, c'est une erreur qu'il ait dit ça, là. Maintenant, je l'ai vu partout, là. « Je vais tout faire pour que tu ne rentres pas en F1 ». Oh, OK.
C'est assez incroyable.
Mais on veut pas diviser la tarte encore plus.
Non, c'est sûr que là, t'as un club sélect de 10 écuries, tout ça, mais moi, j'aimerais ça.
Puis en plus, ça va rapporter d'autres revenus. Là. C'est, ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut réfléchir.
Tiens, en Formule 1, avec GM.
Avec Cadillac.
Cadillac, ben oui.
C'est sûr que ça oublie ça. Je sais que, en fait, Ayrton Senna est probablement le meilleur pilote de l'histoire, selon plusieurs. Il y a eu quelque chose, un débat qui a monté sur les médias sociaux récemment. Comme quoi, on va passer deux minutes là-dessus. Comme quoi, les hommages à Senna étaient peut-être un peu trop. Comme quoi qu'on a glorifié Senna un petit peu trop en fin de semaine. Vous avez pensé quoi de ça, vous autres? Tu sais, de voir, ben, mettons, un Lando Norris, un Oscar Piastri qui ont des casques spéciaux. Tu sais, ils n'ont jamais vu courir Ayrton Senna d'aucune façon. Tu sais, que McLaren lui rende hommage avec une voiture de cette façon-là.
C'est
que,
voiture.
Est-ce que c'était vraiment... Je vais tourner ma question. Est-ce que c'était vraiment un hommage à Senna ou c'était plus une opération marketing que de le faire de cette façon-là? J'ai de la misère à me situer là-dessus, moi. Exactement. On a vu, par exemple, il y a certains pilotes qui l'ont vu courir, qui lui vouent un culte presque à Ayrton Senna. Là, on a des jeunes qui sont là, qui embarquent dans ce mouvement-là également. Voyez-vous ce que je veux m'en...
Ouais. Ben là, c'est aussi parce que ça marque les 30 ans de l'anniversaire de son décès.
Ah oui.
Puis,
il y a un autre pilote qui a perdu la vie la même fin de semaine.
Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Ayrton Senna, c'était le pilote le plus victorieux sur les rues de Monaco, je pense, avec 6 victoires.
Exact, 6.
Donc, je pense que c'est pour ça que c'était tout à fait approprié, moi, de lui payer un hommage. Puis comme tu dis, c'est pas juste les spectateurs, c'est aussi ses pairs. Alain Prost, par exemple, qui est un quadruple champion du monde, probablement le pilote le plus sous-estimé de l'histoire de la Formule 1, qui en voue aussi un culte. Michael Schumacher, qui en pleurait.
On a parlé dans le dernier épisode.
Pour marquer des grands champions qui ont marqué l'histoire du sport également, Ayrton Senna a porté un peuple sur ses épaules, un peuple extrêmement pauvre brésilien. Il leur a donné une place sur la map monde. Il a été inspirant pour tellement de générations. À mon avis, il y a rien qui... Ça pourra jamais être trop. Là. Tant que c'est fait dans le bon goût, ça a sa place.
Absolument d'accord. C'était tout à fait avisé de rendre hommage à ce grand pilote-là. Ça fait 30 ans. Écoute, c'est peut-être juste le clash des générations. Elle demande à un jeune de 17 ans les grosses festivité pour Ken Dryden, mettons, à Montréal, puis il dit, bon, là, on a été écœuré d'en entendre parler. Ben, ils l'ont jamais vu, ils l'ont jamais connu, ils n'ont jamais entendu rien de cette histoire-là.
Non, mais il y a beaucoup d'observateurs en Formule 1 qui ont élevé une opinion impopulaire, mais Il y en a qui ont dit que oui, mais c'était peut-être trop de parler d'un seul pilote qui. Je voulais savoir votre opinion là-dessus.
Mais peut-être être là-bas sur le circuit, peut-être que tu te fais un petit peu garrocher beaucoup trop de ça, mais dans la télévision. Ça s'est pas senti.
Messieurs, on rappelle, on aura une émission spéciale de l'épingle qui sera enregistrée sur l'île Sainte-Hélène dès le samedi après-midi, après les qualifications. La prochaine étape, c'est le Grand Prix du Canada. Vous dire que j'ai hâte, ce serait un euphémisme. J'ai extrêmement hâte à ce week-end-là. On aura notre épisode régulier également le lundi suivant. Également, on vous souhaite, on a un ami qui nous a envoyé des livres, la Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra, Kevin Fontaine qui a écrit ce livre-là, qui est un très très beau résumé en tous les chapitres de toutes les courses de Formule 1 qui ont eu lieu au circuit Gilles Villeneuve. Ça vous rappelle, moi ça m'a rappelé tellement de souvenirs de feuilleter le livre, et je crois qu'il n'a pas d'éditeur, Kevin, donc c'est un one-man show, un effort incroyable. Et il a publié ce livre-là. Nous, on a eu des copies. Tout simplement écrire à Kevin Fontaine sur les médias sociaux si vous êtes intéressé à obtenir une copie. Je crois qu'il est en réimpression, donc c'est un gros succès. Si vous voulez éduquer vos enfants également sur l'historique de la Formule 1 à Montréal, ça peut être très intéressant aussi. Ça vous rappelle des pilotes qu'on a peut-être oubliés. Oui, j'ai lu le nom de Jarno Trulli quelquefois. des trucs comme ça, donc on vous le suggère. Bravo Kevin, très très bel effort. Je vais continuer de feuilleter ça avant le prochain épisode également. Puis on invitera Kevin à venir faire un tour aussi à un moment donné cette saison, si le temps nous le permet. Messieurs, merci beaucoup.
Merci Greg.
Hey, merci Pat.
Merci Jean-Max.
Content de vous revoir, messieurs.
Un excellent bon deux semaines. Re-bienvenue dans ton podcast, Jean-Max. Et on se reparle la semaine prochaine pour nos deux épisodes spéciaux en direct de Montréal. Salut tout le monde.